France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Ce matin, en partenariat avec le Nouvel Obs, une émission consacrée à la lettre signée Hermann, retrouvée en 1945, enterrée à Auschwitz-Birkenau. C'est une histoire poignante, mais aussi extraordinaire. Extraordinaire les conditions dans lesquelles cette lettre, sortie de la glaise d'Auschwitz, est arrivée à ses destinataires. Un cheminement ayant révélé qui exactement l'avait écrite. Extraordinaire le fait que pendant 75 ans, cette information sur le véritable auteur de cette missive a été ignorée des historiens. En effet, lors de la découverte de la lettre en février 1945, on l'avait attribuée à un déporté nommé Chaim Hermann et on en avait gardé une copie. C'est seulement il y a peu de temps que grâce au savoir et à la méticulosité d'une archiviste hors pair, Karen Taïeb, on a compris que l'auteur de cette lettre était un autre déporté, Hertz Strassvogel, avec une prononciation plus française, dont le prénom d'usage était Hermann. Et le document original, enfin retrouvé, authentifié, correctement attribué, se trouve désormais au Mémorial de la Shoah à Paris. Tout cela est évidemment essentiel pour l'historiographie, pour que les faits qui se sont produits là et dont parle cette lettre soient parfaitement documentés et sourcés. On n'est jamais trop précautionneux pour protéger les faits. Bien sûr, c'est aussi la lettre elle-même qui est extraordinaire. Son contenu, ce qu'elle raconte d'Auschwitz-Birkenau, l'amour qui l'irrigue et l'adieu aux êtres aimés. Et puis ce geste, avant d'être assassiné comme tant d'autres, de laisser des mots, des phrases pour les êtres humains d'après. Hermann, juif polonais arrêté en France, demande au début de sa lettre qu'on fasse parvenir cette missive à son épouse et à sa fille à Paris. Et il enroule ses quelques feuillets dans une bouteille en verre qu'il enterre à proximité des crématoires à Birkenau. Il sait qu'il va être éliminé à son tour dans les jours qui suivent. Il l'écrit. Il déclare qu'il est, depuis son arrivée à Auschwitz en mars 1943, membre du Sonderkommando, c'est-à-dire de ces brigades de déportés, presque tous juifs, désignés par les nazis pour exécuter le pire travail. Faire se déshabiller des cohortes d'êtres humains, les faire entrer dans les chambres à gaz et ensuite sortir les cadavres pour les mettre dans les fours crématoires. Les Sonderkommando étaient les témoins les plus immédiats du génocide perpétré par les nazis contre les juifs, juifs qui étaient les plus massivement exterminés ainsi, mais les tziganes aussi, étaient visés avec une analogue systématicité. Et ces témoins directs savaient qu'ils ne devaient pas survivre, précisément, pour ne jamais pouvoir témoigner. En novembre 1944, on semble avoir compris, à Auschwitz, que pour les nazis, l'histoire a tourné. Et que pour les derniers Sonderkommando, c'est terminé. Ils vont être massacrés. Hermann date sa lettre du 6 novembre 1944 et il jette cette bouteille à la terre. D'autres manuscrits ont été retrouvés dans la terre d'Auschwitz en 1945 et plus tard. Ce sont tous des textes écrits par des Sonderkommando. La plupart d'entre eux ont été écrits en yiddish par Zalman Gradovski, Leib Langfuss, Zalman Leventhal. On a aussi trouvé un texte en grec, écrit par un juif de Salonique, Marcel Nadjari. Mais le tout premier texte sorti de cette glaise en février 45 est une lettre en français. Car oui, Hermann, juif polonais arrêté à Paris où se trouvent sa femme et sa fille, écrit en français et il évoque la France. C'est une des raisons, parmi beaucoup d'autres, pour lesquelles nous avons décidé d'en donner une lecture complète, ici, sur France Culture. Après quoi nous en parlerons avec trois invités. Bonjour Tal Brutmann.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Shoah et notamment d'Auschwitz. Vos travaux sont précisés sur notre site. Vous nous parlerez notamment des Sonderkommando. Bonjour Karen Taïeb.
Bonjour.
Vous êtes responsable des archives au Mémorial de la Shoah à Paris. C'est grâce à vous, je l'ai dit, que l'on a retrouvé l'original de la lettre de Hermann et identifié son auteur véritable. Vous nous raconterez comment tout cela s'est passé. Et bonjour Laurent Muntlach, même si je crains de mal prononcer.
Non, bonjour.
Je peux dire Muntlach?
Oui.
Vous êtes le petit-fils de Hertz Strassvogel, dit Hermann. Votre mère, Simone, était la destinataire directe de sa lettre. avec sa propre mère, épouse de Hermann. Après la mort de Simone, vous avez été, avec votre sœur Béatrice, le dernier détenteur de cette lettre. Ensuite, vous l'avez donnée au mémorial de la Shoah. Quand Karen Taïeb vous a appelé et a reconstitué avec vous tous les fils de l'histoire, c'était une émotion et c'est là, après, que vous avez donné la lettre au mémorial. Vous nous raconterez comment pendant des années, vous ignoriez l'importance historiographique de ce document que vous aviez chez vous. Mais pour commencer, voici la lecture complète de la lettre de Hermann, Hers Strassvogel, la comédienne Liliane Rovert, née en 1933 à Paris dans une famille de juifs polonais, son nom de naissance était Kukier. Enfant cachée pendant la guerre, elle est la personne que nous avons choisie pour cette lecture. Écoutons.
Prière d'un mourant, de bien vouloir remettre ce pli au consulat de France ou à la Croix-Rouge internationale pour la faire suivre à l'adresse indiquée. Merci. Birkenau, le 6 novembre 1944. À mes très chères femmes et filles, au début de juillet cette année, j'ai eu la grande joie de recevoir votre lettre, ce qui a été comme un baume pour mes tristes journées ici. Je la relis incessamment et je ne m'en séparerai pas jusqu'à mon dernier souffle. Je n'avais plus d'occasion de vous répondre. Et si je vous écris aujourd'hui au grand risque et péril, c'est pour vous annoncer que c'est ma dernière lettre, que mes jours sont limités. Et si un jour vous recevez cette missive, vous devrez me compter parmi les millions de nos frères et sœurs disparus de ce monde. À cette occasion, je dois vous assurer que je m'en vais calmement, et peut-être héroïquement, ça dépendra des circonstances. Avec le seul regret que je ne pourrai vous revoir pour un seul instant. Néanmoins, je désire exprimer là quelques directives pour vous. Je sais que je n'ai pas laissé grand-chose matériellement pour assurer votre existence. Mais après cette guerre, avec une raisonnable volonté et les 10 doigts, chacun pourra vivre largement. Tâchez de vous associer avec un tricoteur pour travailler exclusivement à votre compte. J'espère que rien n'est perdu de ce que vous avez confié à vos amis. En cas de quelques difficultés, adressez-vous au président de notre société de secours mutuel qui se mettra dans l'affaire pour vous établir dans vos droits. Je n'oublie pas mon grand ami M. Riss, à qui je pense souvent qu'il veille sur vous. Une grande exigence que j'adresse à ma très chère inoubliable Simone. Qu'elle suive sa vie socialement et politiquement, comme elle a connu son père. Mon désir est qu'elle se marie le plus tôt possible, avec un juif, et à condition d'avoir beaucoup d'enfants. Si la destinée m'a dépourvu de la succession de mon nom de famille, c'est à elle, à Simone, d'assurer mon petit nom, comme celui de tous les autres de la famille en Varsovie, qui sont tous disparus. À toi, ma chère femme, je te prie de m'excuser si des fois dans la vie on avait de petits différends. Maintenant je vois qu'on ne savait pas comment chérir le temps passé. Ici je pensais toujours, si par un miracle je sors, je vais refaire une autre vie. Mais hélas, c'est exclu. Personne ne sort d'ici. Tout est fini. Je sais, tu es encore jeune, tu dois te remarier. Je te donne carte blanche, je te l'ordonne même, car je ne veux pas vous voir endeuillé. Mais aussi, je ne veux pas donner un beau-père à Simone. Tâche donc de la marier le plus tôt possible, qu'elle renonce aux études supérieures. Après quoi, tu seras libre. Ne pensez jamais à revenir en Pologne, cette terre maudite pour nous. C'est la terre de France qu'il faut chérir, et là mourir. À moins que les circonstances nous amènent ailleurs, mais jamais en Pologne. Il vous intéresse certainement de savoir ma situation. La voilà, en abrégé, car si je devais écrire tout ce par quoi je suis passé, depuis que je vous ai quitté, je devrais écrire toute ma vie. Notre transport, qui se composait de 1132 personnes, a quitté Drancy le 2 mars 1943 au petit jour, et nous sommes arrivés ici le 4 mars au crépuscule, dans des wagons à bestiaux, sans eau. En descendant, il y avait déjà plusieurs morts et fous. 100 personnes étaient triées pour descendre dans le camp, parmi lesquelles j'étais. Le reste allait au gaz et dans les fours ensuite. Le lendemain, après avoir passé un bain froid et dépourvu de tout ce que nous avions eu avec nous, sauf la ceinture, que je garde encore sur moi, rasé même la tête, ne parlons pas des moustaches et barbiches, on nous a mis, comme par hasard, dans le fameux Sonderkommando. Là, on nous a déclaré que nous venions comme renfort pour travailler comme croque-mort ou comme Hevra Kedisha. 20 mois sont passés déjà depuis, il me semble un siècle. Il est pratiquement ici, impossible de vous décrire toutes les peines, ce que j'ai vécu là. Si vous vivez, vous lirez pas mal d'œuvres écrites à propos de ce Sonderkommando. Mais je vous prie de ne jamais mal me juger. Si parmi les nôtres il y avait des bons et des mauvais, je n'étais certainement pas parmi les derniers. Pendant cette époque, je faisais tout ce qui était en mon moyen, ne craignant ni risque ni péril pour soulager le sort des malheureux, ou politiquement, ce que je ne peux vous écrire. De sorte que ma conscience est pure, et qu'à la veille de ma mort, je peux en être fier. Au début, j'ai beaucoup souffert, même d'une famine formelle. Je songeais parfois à un bout de pain, plus encore à un peu de café chaud. Plusieurs de mes camarades sont tombés, soit par maladie ou simplement abattus. Chaque semaine, on en comptait moins. À l'heure actuelle, nous sommes restés 2. 2 seulement, de notre centaine. Il est vrai que beaucoup ont trouvé une mort plus ou moins glorieuse, en masse. Et si je n'étais pas parmi eux, ce n'était pas par lâcheté, non, mais par simple hasard. En tout cas, mon tour vient au courant de cette semaine, probablement. Mes souffrances physiques prenaient fin vers septembre 43, depuis que j'apprenais à mon chef la règle du jeu de la belote. En jouant avec lui, j'étais dispensé de travaux durs et pénibles. À cette époque, je suis devenu formellement squelettique. Mes mains n'ont pas reconnu mon corps en le frottant. Mais depuis, je me rattrape. Et à l'heure actuelle, quand rien ne nous manque, et surtout depuis le mois de mai 44, nous avons eu abondance de tout. Sauf la liberté chérie. Je suis très bien vêtu, logé et nourri. Je suis en parfaite santé, sans ventre, naturellement bien svelte et sportif. Sauf ma tête blanche, on me donne 30 ans. Pendant tous ces 20 mois ici, j'ai toujours considéré comme mon plus agréable temps celui sur mon lit, où je me suis couché avec l'idée que je suis parmi vous, que je vous parle. Et souvent, je vous voyais dans mes rêves. Quelquefois, je pleurais même avec vous. Surtout le soir du premier Kippour, ou Kol Nidré, ce que nous avons improvisé chez nous. Je pleurais beaucoup en songeant que vous aussi faites de même. Quelque part, dans un coin, en cachette, en pensant à moi. Je voyais toujours Simone s'éloigner le jour du 17 février, en compagnie de M. Van Hem, quand je la suivais par la fenêtre. Et plus d'une fois, en me promenant dans les vastes halls du crématorium vide, je prononçais à haute voix le nom de Simone. Comme je l'appelais. Et j'écoutais ma voix qui résonnait. Ce mot chéri que je ne devais malheureusement plus employer, ça, c'est la plus grande punition que notre ennemi pouvait nous infliger. Depuis que je suis là, jamais je n'ai cru en la possibilité de revenir. Je savais, comme nous tous, que toute liaison avec l'autre monde est interrompue. C'est un autre monde, là. Si vous voulez, c'est l'enfer. Mais l'enfer de Dante est immensément ridicule envers le vrai d'ici. Et nous, comme témoins oculaires, ne devons pas survivre. Malgré tout, Je garde de temps en temps une petite étincelle d'espérance. Peut-être par un miracle quelconque. Moi qui avais déjà tant de chance, un des plus âgés de tous ici, passé par tant d'obstacles. Peut-être arrivera-t-il le miracle final. Mais alors, j'arriverai avant qu'on retrouve cette lettre enterrée. Sachez aussi que tous ceux qui étaient transportés de Drancy sont morts, comme Michel, Henri, Adèle avec les enfants, et tous nos amis et connaissances. Là, je ne me rappelle plus leur nom. J'étais heureux, là, dans mes souffrances, en vous croyant en vie. Et depuis que j'ai eu votre lettre personnelle avec l'écriture de vous deux, que j'embrasse assez souvent, depuis ce temps-là, ma satisfaction est comblée. Je mourrai tranquillement, sachant que vous, au moins, vous êtes sauvés. La plupart de mes collègues d'ici ont amené avec eux leurs familles entières, et surtout les Polonais. Ce sont absolument les seuls survivants, pour le moment. Et nous sommes là, de différentes nations ou pays. Parmi les Polonais, il y a un Figlarz, qui est un cousin du père de notre Figlarz. À propos, qu'est-il devenu? Et aussi, des personnes qui ont connu Michel et Eva dans le ghetto, etc. Je vous demanderai un service à me faire. Je vivais ici avec un camarade de mon transport, une vie commune, un juif français, un certain fabricant et commerçant de fourrures de Toulouse, un nommé David Lahana. C'était convenu entre nous de communiquer mutuellement les nouvelles à la famille de l'autre en cas de disparition d'un de nous. Et comme, par regret et malchance, lui est parti avant moi, c'est à moi de faire savoir à sa famille, par votre intermédiaire, que sa femme, Madame Lahana, était morte 3 semaines après notre arrivée ici. Elle était arrivée vivante dans le camp, avec 30 autres Françaises qui étaient déjà toutes mortes. Et lui-même est parti dans un transport composé de 200 personnes, tous 10 Sonderkommando, le 24 février 1944, à Lublin, où ils étaient exterminés quelques jours après. David était un ange, un camarade incomparable. Dites à sa famille qu'il pensait toujours à ses deux fils avec un amour super paternel, en les croyant naturellement sauvés en Espagne, et aussi à sa mère, comme à ses sœurs et beaux-frères. Il répétait toujours en détresse, « Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, pourquoi me donnez-vous tant de la peine? Pitié, pitié. » Et c'est moi qui l'ai consolé. Lui qui ne savait ni allemand, ni polonais, ni yiddish, se trouvait toujours en mauvaise situation, d'où je l'ai retiré. Mais je ne pouvais pas le sauver du transport. Dieu est mon témoin. Écrivez donc une lettre à l'adresse de cette famille, certainement bien connu à Toulouse, pour donner des renseignements les concernant, ou bien par une autre voie. Ses beaux-frères, Babini, si je ne me trompe pas, tiennent un magasin de soieries et d'articles de Chine, boulevard de Malesherbes. Essayez donc de retrouver par là. Je vous prie de ne jamais oublier le bien que le concours de nos amis ont fait pour vous, en mon absence, comme les Martinelli, les Van Hem et d'autres s'il y a lieu. N'oubliez pas que si vous êtes en vie, c'est grâce à Dieu et à eux. Malheureusement, je n'aurai pas la satisfaction de m'acquitter personnellement. Il ne me reste que de leur envoyer mes sincères remerciements et de meilleurs vœux. Des vœux exprimés par un homme avant sa mort seront exaucés par la Providence. Ma lettre arrive vers la fin, comme mes heures même, et je vous adresse le suprême adieu pour toujours. C'est le dernier salut. Je vous embrasse bien, bien fort, pour la dernière fois, et je vous prie encore une fois de me croire. que je m'en vais allègrement, en sachant que vous êtes en vie et que notre ennemi est perdu. Il est même possible que par l'histoire des Undercommando, vous apprendrez le jour exact de ma fin. Je me trouve dans la dernière équipe de 204 personnes. On liquide actuellement le crématorium numéro 2, où je suis. Et on parle de notre propre liquidation pour le courant de cette semaine. Excusez-moi pour mon texte étourdi comme pour mon français. Si vous saviez dans quelles circonstances j'écris. Qu'il m'excuse aussi tous les amis que je ne nomme pas par impossibilité de place et à qui je fais mes derniers adieux en commun en leur disant « Vengez pour vos frères et sœurs innocemment tombés sur l'échafaud. » Adieu, ma chère femme et ma si bonne chérie. Exécutez mes vœux et vivez en paix. Dieu vous garde. Mille baisers. Votre mari et père, Herman. À la réception de cette lettre, je vous prie d'aviser Madame Germaine Cohen de la Bank Union à Salonique en Grèce que Léon partage mon sort comme il a partagé mes souffrances, qu'il embrasse tout le monde et recommande Bill spécialement à sa femme. Daniel et Lily sont morts aussi depuis longtemps. L'avocat Yak Cohen est mort avec toute sa famille il y a un mois. Herman.
C'était la lecture par Liliane Rover de la lettre signée Herman, cette lettre retrouvée en février 1945 à Auschwitz-Birkenau, enroulée et placée dans une bouteille en verre, enterrée près d'un crématoire. Nous allons évoquer l'histoire de la lettre, l'original qui a rejoint Paris, comment l'épouse et la fille de Herman l'ont reçue, comment certaines choses ont alors échappé aux historiens. Mais d'abord, quelques éclairages sur des points essentiels de la lettre. Tal Brutman, vous êtes historien. Pouvez-vous nous parler un peu des Undercommando, de leur activité dans le camp, et nous dire aussi si les derniers d'entre eux dont faisait partie Herman ont en effet été liquidés fin 1944, comme il l'annonce dans sa lettre?
L'histoire du Sonderkommando, elle s'étire sur quasiment depuis la naissance du camp de concentration d'Auschwitz jusqu'à sa liquidation, avec une particularité. Et c'est là où il y a les problèmes aussi des représentations de la mémoire qui pèsent sur la manière dont on comprend les événements. Dès la création du camp de concentration d'Auschwitz, les SS installent un crématoire. Pour une raison très simple, et je risque de faire un tunnel si je dois expliquer les tenants et les aboutissants, mais en Allemagne, depuis la fin du 19e siècle, il devient normal de procéder à la crémation des corps. C'est pas un moyen de cacher quoi que ce soit, c'est une gestion des corps qui est liée au mouvement des hygiénistes et qui n'a pas pris en France, par exemple, à cause du poids du catholicisme, pour aller très vite. Donc il y a un crématoire qui fonctionne dès le départ et qui relève d'une gestion normale des morts dans le camp. Les SS vont affecter ce qu'ils appellent des chauffeurs, des gens qui sont chargés de s'occuper des crématoires et qui sont des prisonniers. À ce moment-là, si ça relève pas du tout du Sonderkommando. Le Sonderkommando va être créé 2 ans plus tard, quand commence l'assassinat de masse des Juifs et que des chambres à gaz sont mises en place à Birkenau. Entre-temps, une première chambre à gaz a été mise en place à Auschwitz et ces chauffeurs, qui initialement ne se contentaient que de gérer, avec plein de guillemets, les corps des morts du camp, deviennent les hommes qui sont affectés à la destruction des corps des gens qui sont assassinés dans la chambre à gaz. Printemps 42, la solution finale est mise en place à Auschwitz et là, le Sonderkommando devient quelque chose qui est directement lié à l'assassinat de masse avec une prédilection pour les SS d'y affecter des Juifs. Il n'y a pas exclusivement des Juifs, mais il n'y a quasiment que des Juifs. À partir du printemps 42, ces hommes ont pour mission de vider les chambres à gaz et de procéder à la gestion du corps. Pourquoi est-ce que je dis gestion? Parce que jusqu'à fin 42, il n'y a pas de crémation. Et c'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'on est vraiment pris dans nos représentations. On pense la mort de masse à partir du crématoire, alors que la mort de masse, c'est les chambres à gaz. Mmh. La crémation, c'est juste quelque chose de second ou secondaire, y compris dans la logique des SS. Pendant un an, il n'y a pas de destruction des corps.
Et on les met où, les corps?
Les corps sont balancés littéralement dans des fosses.
Et là, il y a le feu, non, dans les fosses, ou pas forcément?
Pas au départ. Et pour tout un ensemble de raisons, là aussi, il faudrait toute une émission, donc oui. Je ne sais pas. Mais pour des raisons qui sont liées à de la prophylaxie avant tout, parce que vous avez une immense garnison SS qui est à côté, vous avez une immense ville, enfin une ville qui est appelée à devenir immense, qui se développe, qui s'appelle Auschwitz, et que quand vous avez des centaines de milliers de cadavres qui sont enfouis à quelques centaines de mètres de la garnison SS ou à quelques kilomètres de la ville, ça pose des problèmes de prophylaxie.
Donc de prévention des maladies.
Exactement. Donc fin 42, ordre est donné, mais dans un cadre beaucoup plus large, d'une opération qui est appelée 1005, en raison du numéro d'ordre du courrier qui a été envoyé par Berlin pour procéder à la destruction de ces corps qui polluent les sols. Les fosses sont ouvertes et les Sonderkommando qui jusque-là étaient chargés d'enfouir les cadavres sont chargés de procéder à leur crémation, d'abord dans les fosses, et ensuite au printemps 43, quand il y a une nouvelle... Là aussi, c'est du langage qui peut paraître inapproprié. Une nouvelle génération de chambres à gaz qui entrent en fonction à Auschwitz, cette fois, qui sont appelées par les SS des crématoires, parce que vous avez une chambre à gaz qui est couplée avec un crématoire. Jusque-là, c'était deux fermes qui avaient été sommairement aménagées en chambres à gaz, mais il n'y a pas de crémation des corps. Et au printemps 43, les chambres à gaz couplées avec des crématoires rentrent en fonction. Et là, les Sonderkommando ont pour mission, donc comme vous l'avez décrit en introduction, entre guillemets, d'accueillir les gens qui sont poussés là par les SS, mais ils le font. Alors, il y a un élément très important sur lequel je vais faire une parenthèse. Les Sonderkommando ne jouent aucun rôle dans l'assassinat. Ils sont chargés d'accueillir les gens dans le vestiaire pour qu'ils se déshabillent, sous la menace des SS par ailleurs. Et ensuite, l'assassinat relève exclusivement...
Vous voulez dire l'envoi du gaz dans la chambre ?
Et c'est les SS.
Ah, donc, mais à culpage.
Ah, je sais pas.
Il m'a pas semblé dit.
Que vous l'avez. Non, ouais. Ce sont exclusivement les SS qui assassinent. Les Sonderkommando n'ont jamais assassiné. Les Sonderkommando sont là pour faire le travail qui est appelé par les SS dans toute l'Europe, le travail sale.
Avant et après.
Avant et après. S'occuper des Juifs, c'est sale. Les tuer, c'est propre. Gérer les corps, c'est sale.
Donc c'est ça. On va revenir. Je voudrais entendre aussi sur les Sonderkommando, Karen Taïeb.
Je vous ai prévenu, ça allait faire une série de tunnels.
Oui, je sais. Mais je voudrais aussi qu'on revienne à Hermann, mais c'est important qu'on ait ce contexte historique. Dans sa lettre, Hermann dit qu'il est Sonderkommando et il dit qu'il sait qu'il y aura des livres. Vous lirez pas mal d'œuvres écrites à propos de ce Sonderkommando. Il sait que c'est un enjeu et il dit, mais je vous prie de ne jamais mal me juger. Il sait donc aussi que c'est une mémoire très difficile et douloureuse, parce qu'ils étaient presque tous des Juifs. Karen Taïeb, c'est intéressant qu'il dise ça dans la lettre, c'est même poignant, visionnaire, là où il est.
Et c'est de cette manière qu'on le perçoit aujourd'hui, effectivement, à chaque fois que je relis cette lettre, ou qu'on la relit, je trouve de nouvelles informations, de choses qui m'avait moins interpellée à sa première et deuxième et dixième et vingtième lecture, sans doute. À quoi peut-il faire référence? D'abord, je pense qu'il n'est pas le seul à écrire. Enfin, ça, on le sait qu'il n'est pas le seul à écrire. Oui. Et donc, il doit être témoin de ce que d'autres compagnons ont écrit également. Il sait qu'il n'est pas le seul à écrire une lettre. C'est la seule lettre de ce type, mais ça, on en reparlera peut-être. En tous les cas, je pense qu'il fait référence à ses autres auteurs de lettres dont il sait qu'ils vont laisser témoignage. Maintenant, sur sa perception de ce que l'on pourrait reprocher aux membres des Sonderkommando de leur activité, de leur dans le camp, l'activité à laquelle ils sont soumis, hein, qu'on leur impose, c'est certainement déjà une réalité qu'ils vivent à l'intérieur du camp. Ils sont mis à part, physiquement, mis à part, isolé. Oui. Néanmoins, ça n'empêche pas pour autant de sans doute savoir que les autres détenus, ce que les autres détenus pensent d'eux, qui ont un sort peut-être considéré comme privilégié parce qu'ils sont logés autrement, nourris autrement, et qu'ils participent de cette activité, de cette action d'assassinat, comme vient de l'expliquer Tal Brutmann, effectivement, ils ne sont pas, comment dire, dans une bulle. Ils savent ce qui se passe et ce qui se dit autour d'eux. Plus, sans doute, le fait que Hersch Strassvogel est un pressentiment, enfin, qu'il sache, effectivement, qu'il soit plus averti de ce qui pourra se dire
ensuite. Se dire sur eux. Alors, ont-ils vraiment été éliminés à la fin, comme le pressent Hermann, c'est-à-dire Hersch Strassvogel?
Une partie, effectivement, a été éliminée sur les 204. Une centaine sont exécutées avant que le camp ne soit définitivement évacué les 19 et 20 janvier 1945. Mais parmi la centaine qui reste en vie à ce moment-là, grâce au chaos qui règne à ce moment-là, ils réussissent à se mêler aux prisonniers qui sont évacués lors de ce qui est appelé les marches de la mort. Et donc, ils vont se disséminer parmi les quelques 60 000 prisonniers d'Auschwitz qui partent vers les autres camps de concentration. Alors que les SS auraient dû théoriquement les assassiner. Il y a plusieurs témoignages qui rapportent que dans les camps d'arrivée, comme à Mauthausen ou Buchenwald, il y a des appels qui sont lancés pour que les Sonderkommando d'Auschwitz se présentent. Aucun ne le fera. Ils savent exactement que s'ils se présentent, ils seront exécutés. Mais ce qu'il pressent, c'est pas uniquement un pressentiment. Il le dit avant dans la lettre. Il parle des 200 qui ont été tués à Lublin.
Oui.
Parce que régulièrement, il y a des purges dans le Sonderkommando qui sont notamment liées au fait qu'il y a des variations dans le nombre de convois qui arrivent à Auschwitz. Et que, au gré de ces variations, il y a besoin de plus ou moins de main-d'œuvre au sein du Sonderkommando. Donc, les SS augmentent les effectifs, puis ils les rabaissent en éliminant les membres du Sonderkommando. Et en mai 44, on a la dernière grande phase de destruction des Juifs d'Europe, avec en particulier les Juifs de Hongrie qui sont déportés là en deux mois. C'est plus de 420 000 personnes. Le Sonderkommando va passer en avril de 200 à quasiment 900 membres du Sonderkommando. Donc, ce qu'il évoque, c'est quelque chose dont il est témoin au premier plan. Au moment où il écrit la lettre, ça fait 18 mois qu'il est dans le Sonderkommando. Il a vu toutes ces variations, il a vu les liquidations successives au gré des besoins par les SS, et il sait exactement comment les SS gèrent tout cela.
Et son destin à lui, on ne sait pas exactement. Il n'est pas rentré d'Auschwitz, mais on ne sait pas exactement quand il est mort.
On ne sait pas exactement quand il est mort, comme pour la plupart des membres du Sonderkommando qui sont morts, à de très rares exceptions près, on n'a pas d'informations précises, mais ça vaut pour l'ensemble d'Auschwitz.
Laurent Muntlach, vous êtes le petit-fils de l'auteur de cette lettre. On va raconter l'histoire de la lettre et comment vous vous situez dans l'histoire de cette lettre. Mais j'aimerais vous faire réagir tout de même à la lecture qui vient d'être faite par Liliane Rovert. Je dois dire qu'une chose qui me frappe, mais je ne sais pas pour vous, c'est à quel point Herr Strassvogel, parle des autres dans cette lettre. Il commence par les autres. Il s'intéresse aux problèmes matériels que vont avoir sa femme et sa fille. Et dans le camp, il parle des autres, de ceux qui étaient avec lui dans le convoi de Drancy. Voilà, je voulais vous faire part de cette réflexion.
Il y a une très très grande humanité dans cette lettre. Et on le reconnaît par ailleurs, parce que d'autres témoignages qui ont été écrits de Sonderkommando qui ont été survivants, en particulier Marcel Nadjari, oui, parlent de mon grand-père comme quelqu'un de bien, un type bien avec qui il était copain, qui essayait d'aider les autres, et malgré le rôle horrible qu'on lui faisait faire, il était toujours d'une grande humanité. Ça transpire dans cette lettre, effectivement. C'est pour lui, il sait que son sort est scellé, mais il s'intéresse à ceux qui vont survivre. Et je trouve ça extraordinaire dans cette lettre d'avoir cette pensée pour ceux qui vont survivre. C'est très très fort.
Oui. Alors Karen Taïeb, on va maintenant raconter les conditions dans lesquelles la lettre a été découverte et puis ce qui lui est arrivé après à cette lettre. En février 45, qui trouve la lettre à Auschwitz et qu'a-t-on fait de la lettre ?
Alors, la lettre est découverte très tôt, effectivement, puisqu'on est en février 1945, juste après les pseudo-libérations du camp d'Auschwitz, en tous les cas la découverte des camps d'Auschwitz et Birkenau, par un dénommé Andrei Zaorski. Il est étudiant en médecine et il s'est présenté pour travailler auprès de la Croix-Rouge polonaise, mais pour travailler au camp d'Auschwitz, où ils ont installé un hôpital pour s'occuper des survivants, de ceux qui étaient toujours en vie et qui sont restés sur place. Et il se promène, c'est sans certainement pas le bon terme, enfin il se rend sur le site de Birkenau. Et là, il va trouver cette bouteille en verre dans laquelle est conservée une lettre. Et on sait toutes ces informations parce que Zaorski a raconté sa découverte tardivement. Il a été interrogé par les conservateurs du musée d'Auschwitz dans les années 60 qu'ils l'ont interrogé. Donc il découvre cette lettre. Il la décrit parfaitement bien, d'ailleurs, même matériellement, le papier, la couleur du papier, la façon dont elle se présentait. Cette lettre qui est destinée, semble-t-il, il y avait un papier qui, lui, n'a pas été retrouvé, avec une adresse, Voilà, l'adresse a disparu, mais il fallait remettre la lettre à la Croix-Rouge française, Croix-Rouge polonaise ou aux administrations françaises. Enfin, la lettre est donc écrite en français, ça il le sait, il le dit. Et ça explique surtout cette découverte très, très tôt, après la découverte des camps, c'est que c'est son état de conservation.
Oui.
Parce qu'elle est très bien conservée. Pas eu le temps d'être abîmée par l'humidité, son enfouissement dans le sol, comme ça sera le cas pour un bon nombre des autres manuscrits dont on parlera peut-être. Donc la lettre est remise aux autorités. Elle est retranscrite, dactylographiée.
C'est pas une photo.
C'est pas une photo. D'accord. Du tout. La lettre est retranscrite, donc est-ce qu'elle est retranscrite par Zaorski ? Est-ce qu'elle est retranscrite par les autorités françaises ? À Cracovie, à Varsovie, on ne sait pas trop, pas vraiment le circuit de la lettre, mais elle arrive en France.
Alors juste avant, peut-être que ça s'est passé après, mais
oui.
C'est une de mes questions. Est-ce que très vite, là-bas, on a essayé d'identifier l'auteur qui signe Hermann ? Pas tout de suite, ça s'est fait plus tard.
Certainement pas.
D'accord.
A priori, l'identification de l'auteur est plus tardive et sans doute à peu près de la date du témoignage de Zaorski dans les années 60.
Et justement, peut-être on peut juste évoquer cette identification et puis on refera ensuite l'itinéraire de l'original.
Tout à fait.
Si vous voulez bien.
Eh bien, il se trouve que la lettre est écrite en français, que Hermann indique précisément par quel convoi il est déporté. Il indique qu'il est parti de France, donc ce n'est pas difficile d'identifier le convoi. Il se trouve également que pour la France, nous avons la chance d'avoir pu récupérer les listes des convois de déportation. Enfin, je dis déjà à l'époque, ces listes de convois de déportation qui inscrivent sur le papier les noms de chacune des personnes qui vont être déportées à destination des camps de la mort. C'est pas le cas pour l'ensemble des pays. En Pologne, on arrête, on déporte, il n'y a pas de liste. Mmh. En France, dans les pays d'Europe de l'Ouest, on a ces listes et en France, elles ont été conservées. Donc, on a les listes, on a la date du convoi. On a une signature Hermann, donc le raccourci très simple qui est fait, c'est que quelqu'un, alors qui ? Peut-être quelqu'un au ministère des Anciens Combattants, je ne pense pas, puisque finalement, on le verra plus tard, avait l'information. Quelqu'un, en tous les cas, prend cette liste, la liste du convoi 49 par lequel il est parti, recherche un Hermann. Il se trouve qu'il y a un seul homme dans cette liste qui a pour patronyme Hermann. C'est donc un dénommé Chaim Hermann, raccourci, très vite établi. Hermann signe la lettre, il est déporté par ce convoi, il n'y en a qu'un. C'est donc lui l'auteur de la lettre. Personne ne remarquera ou ne s'étonnera du fait que Chaim Hermann est célibataire, il n'a pas d'enfant.
Mais on ne déclare pas ça à l'entrée d'Auschwitz en général. Mais ça veut dire qu'on l'a trouvé après, on a vérifié.
En France.
En France.
Personne ne s'en étonne, oui, on peut le vérifier à ce moment-là.
Oui. Voilà. Et donc, alors juste là, on va faire une petite parenthèse avec l'historien Tal Brutmann. Pendant 75 ans, alors si c'est depuis les années 60, peut-être depuis 55 ans, cette lettre est connue des historiens et elle est définie comme la lettre de Chaim Hermann ou de Chaim Hermann. C'est comme ça qu'elle est nommée, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Et là, il y a plusieurs choses qui se jouent, comme Karen vient de le rappeler. Mais en plus, il faut rajouter un élément très important, c'est qu'il y a la guerre froide. Et la guerre froide va peser très lourd sur toutes les études qui relèvent de l'histoire de la Shoah, puisqu'une grande partie des archives se trouve de l'autre côté du rideau de fer. Que, en plus, le sort des Juifs est traité d'une manière très particulière par les pouvoirs communistes.
Oui.
En particulier en Pologne. Que les premières publications des textes des Sonderkommando vont être publiées bizarrement, on va dire. Ou caviardé, ou tronqué, etc. Donc il y a cela. Et ensuite, il y a un autre élément qu'il faut avoir en tête. Contrairement à ce qu'on se représente très souvent, il y a peu d'historiens qui ont travaillé sur Auschwitz. Et à plus forte raison sur le Sonderkommando.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Et ça peut expliquer cette chose que je trouve très étonnante en découvrant l'histoire, j'avoue, comme plein de gens. C'est que l'original, on ne l'a plus. Il est parti en France. On va maintenant raconter ce qui lui est arrivé. Et les historiens, c'est gênant pour eux. Il manque un original, quand même.
Alors, c'est pas le seul cas, et pas juste sur la Shoah. C'est un truc qui est ultra fréquent en histoire. Mais ça montre aussi une chose, c'est que les historiens ne seraient pas grand-chose sans les archivistes. Parce que ce sont souvent les archivistes qui viennent faire ce boulot-là, de traquer, d'essayer de compléter. Les historiens passent souvent à côté pour tout un ensemble de raisons. Et ce qu'on voit pas en général publiquement, ce sont les archivistes, et c'est eux qui essaient de comprendre où est passé un document qui circule, d'où il vient, et c'est ce que Karen a fait.
L'archiviste hors pair qui a
oui, ça effectivement, je vais pas dire le contraire publiquement, vu que ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble.
D'accord.
Mais non, il faut.
Et Laurent Moutlac, le petit.
Les archivistes jouent un rôle fondamental que les historiens ne jouent pas. Parce que les historiens attendent d'avoir les documents, et puis ensuite, ils bossent dessus. Mais pour s'interroger sur la trajectoire d'un document, sauf dans, pour certaines périodes très précises, quand vous bossez sur les manuscrits de l'Ancien Testament, les historiens traquent les différentes versions des manuscrits.
Oui,
les historiens qui travaillent en contempo, en contemporaine, c'est pas trop leur habitude, ce qui vous montre aussi qu'il y a des pratiques qui devraient être intégrées qui ne le sont pas.
Oui, c'est un problème de ne plus savoir où est passé l'original. Est-ce bien la situation, Karen Taïeb, vous l'archiviste, à un moment donné, on ne sait plus, on a la retranscription de la lettre chez les historiens, mais on ne sait plus ce qui est devenu l'original de la lettre de Hermann.
Oui, et semble-t-il, c'est une question qu'il ne se pose pas d'ailleurs. Donc on utilise la transcription de la lettre qui a été faite, elle commence à circuler, à être utilisée, elle est publiée, je crois, la première fois, c'est dans le bouquin de Bermark.
Ouais. 1977,
voilà,
si je
en français,
pas.
Enfin, est traduit en français. Elle est citée de temps en temps quand on parle des manuscrits des Sonderkommando, les voix sous la cendre, etc. On cite la lettre de Chaim Hermann sans en reproduire le texte parce que, bon, pour différentes raisons, ça je ne vais pas épiloguer sur cela. En tous les cas, il ne s'interroge pas sur le devenir du document. Et c'est vrai que là, le rôle de l'archiviste, je suis reconnaissant à mes camarades d'être aussi élogieux, mais c'est vrai qu'on notre intérêt aux archivistes en général, c'est le document. Les historiens, ils cherchent une information, ils cherchent des informations dans les documents, évidemment, mais le document, la matérialité du document, je dirais que nous y sommes beaucoup plus attachés, beaucoup plus sensibles, évidemment.
Donc qu'est-ce qu'on sait maintenant ? Racontez-nous l'histoire de l'original que, grâce à vous, nous connaissons depuis très peu de temps.
Donc, maintenant, on le sait, donc effectivement, chronologiquement, je vais remettre les choses dans le bon ordre, la lettre est donc remise aux autorités françaises en Pologne, quelle qu'elle soit, ça on ne sait pas exactement, la lettre revient en France, et ce qu'on sait, c'est qu'elle est donc entre les mains du ministère des anciens combattants, tel qu'on l'appellerait aujourd'hui, des déportés rapatriés, ministère Freinet, tel qu'il s'appelait immédiatement après la guerre, mais sans l'adresse, puisque il était question d'une adresse, là, elle arrive en France sans l'adresse.
Qui est perdue.
Ce bout de papier, semble-t-il, a été perdu. Donc on ne sait pas à qui remettre la lettre. Et le ministère des anciens combattants va avoir une excellente initiative, c'est qu'il va s'adresser à l'association, à l'Amicale des déportés d'Auschwitz, qui s'est déjà constituée en France, à Paris, en leur demandant de faire passer un message dans leur bulletin. Ils ont déjà un bulletin de communication, hein, qui doit être mensuel. Et l'amicale d'Auschwitz va donc reproduire partiellement le contenu de la lettre en retirant, comme ils le disent d'ailleurs, les éléments les plus personnels, en disant « Le ministère des anciens combattants nous demande de les aider à retrouver la famille de l'auteur de cette lettre ». Donc, ils donnent un large extrait. Et ça paraît en janvier 48, dans le bulletin de l'amicale d'Auschwitz. Et ce qu'on sait maintenant, effectivement, c'est que Simone,
la fille de Hermann,
se manifeste auprès des autorités. Et dans le dossier qui est aujourd'hui conservé dans d'autres archives, celle du service historique de la défense à Caen, eh bien, le dossier de Hersch Hermann Strassvogel qui a été ouvert pour une démarche administrative, en fait, la famille a besoin d'obtenir le titre de déporté. Politique pour leur père et mari disparus. Et dans ce dossier qui est donc conservé, on a bien la mention sur une copie de la lettre, une transcription de la lettre, que l'original a été remise à la famille en mars 1948. Donc, quelque temps après la communication parue dans le bulletin de l'amicale.
Et cette famille dit qu'elle ne s'appelle pas Hermann en nom de famille, mais que dit-elle ?
Alors, elle a dû certainement justifier de son identité et son lien de parenté. Donc c'est bien Simone Sima qui est citée, le nom de l'épouse. Enfin bon, toutes les informations, elles peuvent les corroborer. La lettre est remise à Simone et à sa maman, Suzanne, je crois qu'on l'appelait.
Fiona, elle s'appelait
Hélène. Nous l'appelions Mamie Hélène.
Ah, Mamie
son
Hélène.
Prénom, c'était Fiona.
Fiona.
Donc la lettre est remise à Simone et à sa maman, toujours très bien conservée, mise dans un tiroir, puis ensuite dans un coffre, si j'ai bien compris, oui, mais ça conservé. Vous confirmerez. Et elle n'y touche plus jamais, sans doute après l'avoir lu.
Alors on va évidemment demander à Laurent Moutelin de nous expliquer cette situation familiale, mais cette information qu'il s'agit d'une famille Strassvogel, que Hermann est un nom d'usage, un prénom d'usage de Herz Strassvogel, ça ne remonte pas vers les historiens.
Ça ne remonte pas, absolument pas, parce que le ministère des anciens combattants n'est pas, encore aujourd'hui, n'est pas un service d'archives, ils n'ont pas pour vocation de faire des recherches, ils ont identifié le destinataire de la lettre, pour eux le boulot il est fait. L'information elle se trouve dans le dossier de Strassvogel, elle n'est pas, eux n'ont sans doute même pas connaissance que quelqu'un, un jour, va attribuer à cette lettre à Scheimermann, puisque c'est bien plus tard.
Oui, c'est les années 60.
Voilà, c'est dans les années 60. Donc en 48, il n'y a aucune raison de faire autrement que ce qu'ils ont fait. Ils notent l'information, on a remis la lettre, et pour eux, le boulot est terminé. Donc c'est un faisceau de circonstances qui a fait que tout ça a pu se produire. Scheimermann n'a pas de famille, personne n'a rien dit quand on lui a attribué la lettre. La famille Mantlach-Strassvogel n'en parle pas pour des raisons sur lesquelles Laurent va pouvoir intervenir. Donc là, il y a également un silence de ce côté-là. Et dans le dossier Strassvogel, si quelqu'un l'avait consulté, il aurait trouvé l'information. Mais qui, en dehors de la famille ou d'archivistes qui font des recherches, va demander à consulter le dossier de Hermann Strassvogel dans les archives du ministère des Anciens Combattants? Aucune raison.
Alors, les destinataires ont eu la lettre. C'est quand même une chose très belle dans cette histoire. Elles l'ont lue. Votre grand-mère, Laurent Moutelac, Fiona, son nom polonais, Hélène, vous l'appeliez Hélène, oui. Et puis votre mère, Simone, qui était née Sima en 1927. Elle a donc une vingtaine d'années quand elle reçoit cette lettre originale, comme sa mère. Et qu'en fait-elle? Et qu'en fait-elle quand vous naissez dans les années 50 et plus tard? Elle ne vous l'a jamais fait lire. Vous la connaissiez, cette lettre? Que saviez-vous?
Alors, cette lettre n'est plus un mystère pour nous, bien entendu. La question que je me posais, parce que cette lettre était adressée à ma grand-mère et à ma mère, c'est savoir si en 1948, lors de la remise, ma mère a lu cette lettre. Elle nous disait, du temps où elle était vivante, qu'en fait, elle avait découvert cette lettre lorsque ma grand-mère est décédée, et qu'elle a vidé l'appartement dans lequel elle vivait, qu'elle a retrouvé dans ses papiers cette lettre. Donc je n'aurai jamais la réponse. Jamais plus la réponse, ma mère est décédée en 2017.
Et vous saviez qu'elle existait, la lettre? Vous saviez même
oui,
où elle
savait,
était?
Oui, on savait qu'elle existait, on savait que c'était un document de famille. Ce qu'on ignorait totalement, c'était l'importance historique que revêtait cette lettre. Ça, je l'ai appris de la bouche de
Karen on va y venir.
En fin 2018.
Mais vous aviez eu la curiosité de lire cette lettre envoyée par votre grand-père, envoyée d'une drôle de manière. D'ailleurs, saviez-vous que c'était dans une bouteille enterrée?
Non, pas du tout. Cette lettre donc a été remise par ma mère, une copie a été remise par ma mère en 2002, lorsqu'elle a déposé cette lettre. Avec un dossier d'inscription du nom de mon grand-père sur le mur des noms au mémorial de la Shoah à Paris. C'était donc en 2002. Elle nous a dit, voilà, il y a des scans haute résolution qui ont été faits. Voilà, je vous donne à chacun une photocopie, vous lirez la lettre quand vous voudrez.
Et vous l'avez fait?
Non. Non, je ne me sentais pas. Je savais que mon grand-père, à ce moment-là, ma mère nous avait dit qu'il faisait partie d'un Sonderkommando. Connaissant un tout petit peu l'histoire, parce que lors de mes études, bien sûr, on étudiait cette période, je ne me sentais pas de la lire.
Ça vous effrayait?
C'était terriblement.
Des Sonderkommando.
Terriblement.
C'était ça.
J'avais très peur. J'avais très peur de la lire. Donc je l'avais dans un tiroir. Je savais que le jour où je serais prêt, je pourrais la lire. Mais je n'arrivais pas physiquement à la lire.
Et ta sœur ne l'a pas lue non plus?
Votre sœur Béatrice?
Je crois que ma sœur l'a lue, elle.
Ah.
Mais cette lettre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que après la guerre, les survivants ou les enfants de déportés voulaient revivre une vie normale. Ils ne voulaient pas vivre dans l'histoire, et il fallait qu'ils soient français à part entière, juifs parce que nés juifs ou juives, mais ils voulaient être français. Donc il y avait une espèce de chape de plomb, et on se rend bien compte actuellement que les derniers survivants de la Shoah disparaissant les uns après les autres, la parole s'est libérée relativement récemment. C'est pas juste après la guerre que les déportés ont commencé à parler. C'est devenu beaucoup plus tard. Et maintenant, ils disparaissent les uns après les autres. Et c'est à nous, la génération qui suit, de prolonger, pour ce que l'on connaît, de prolonger cette histoire, de la faire connaître.
D'ailleurs, je le dis au cas où nous manquerions de temps pour le dire plus tard, mais depuis que vous savez quelle est cette lettre, que vous l'avez lue, que vous l'avez donnée au mémorial de la Shoah, vous êtes très actif, vous parlez dans les classes, vous racontez l'histoire.
Oui, mais c'est arrivé d'intervenir dans une classe de 3e à Drancy. Donc à Drancy, c'est encore plus symbolique d'intervenir dans cet établissement avec des enfants de 3e. J'ai participé aussi à une émission de télévision lors de la commémoration du 80e anniversaire de la découverte du camp de Auschwitz-Birkenau.
Donc ça y est, vous... Oui, mais ce qui est intéressant et troublant, c'est effectivement que vous ayez eu ce document chez vous. Une lettre d'Auschwitz, c'est suffisamment rare pour peut-être attiser la curiosité. Et donc vous ne l'avez pas lu et je crois que c'est important que vous disiez, ben voilà, c'est comme ça, une mémoire familiale, c'est difficile. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de... C'était difficile pour vous.
Oui, parce que d'autant plus que moi actuellement, je ne pourrais jamais avoir les réponses aux questions que je me pose. Ma mère n'étant plus là.
Oui.
Donc c'est terrible, cette lettre a été déposée en 2002. Si on avait pu connaître à ce moment-là l'importance de cette lettre, j'aurais pu poser des questions à ma mère et avoir des réponses.
Oui. Et Karen,
peut-être que les réponses ne m'auraient pas satisfaite ou ma mère aura peut-être éludé certaines réponses. Mais au moins, j'aurais pu poser des questions. Or là, maintenant, je suis devant un mur et je ne peux pas l'escalader, ce mur.
Et ça, c'est vraiment le plus grand regret, quoi. Que... Bon, c'est comme ça.
Le regret, c'est que ça arrive en 2002.
Le regret, c'est que ça arrive.
Racontez-nous, Karen Tayem.
Voilà, donc on est en 2002, on est au mémorial de la Shoah, en pleine refonte de notre institution. Il y a des travaux énormes qui sont entrepris, le bâtiment s'agrandit. On est dans des locaux provisoires, on a la tête dans le guidon parce qu'on doit faire un million de choses, une exposition permanente. Enfin, Tal s'en souvient, il y a contribué. On doit cataloguer des millions de pages de documents et on doit faire le mur des noms. Et sur ce mur, donc, sont gravés les noms des 76 000 déportés juifs de France. Et pour faire ce travail, il faut faire une base de données, corriger les noms, les orthographes, etc. C'est un travail titanesque. Et on était déjà, et on est encore une petite équipe, mais voilà, c'était énorme. Et les formulaires qu'on a mis en place pour faire savoir aux familles que nous travaillons sur la collecte des noms et la bonne orthographe des noms surtout, a provoqué l'arrivée de plus de 20 000 formulaires qu'il a fallu traiter. Et parmi ces formulaires, celui rempli par Simone pour son papa, Hermann Strassvogel, à laquelle elle joint la copie de ce document. Donc, il a été traité, le formulaire, pour le mur des noms, et le document, de son côté, plus tard, a fait sa vie dans les archives. Il a été catalogué, rangé, indexé.
Et on n'a pas compris tout de suite.
Mais on n'a pas compris.
Ce qu'était cette lettre, c'était la lettre de Raïl Hermann,
qui a traité
dans un dossier Strassvogel.
Voilà. Il l'a bien identifié comme étant une lettre écrite de Birkenau par un auteur, sans aller plus loin. Et vraiment, ça, c'est très regrettable. On aurait rencontré Simone, on lui aurait proposé une interview. Enfin, on aurait fait tout un tas de choses qu'on fait encore aujourd'hui. Bon, là, on ne l'a pas fait.
Voilà, en 2018, vous entamez une autre recherche. Je suis désolée, compte tenu du peu de temps que nous avons, de vous demander d'en parler un peu brièvement, alors qu'elle est passionnante et que vous en parlez dans Je vous écris d'Auschwitz, les lettres retrouvées, parues chez Talendier en 2021. Mais c'est à l'occasion de cette autre recherche que vous tombez sur le dossier Strassvogel et que vous avez le déclic.
Mais oui, parce qu'en faisant cette recherche, cette fois-ci, je sors de nos archives toutes les lettres écrites, tous les mots jetés du train, mais toutes les lettres écrites depuis Auschwitz, Birkenau, ses commandos, etc. Et donc, normalement, la lettre d'Hermann ressort, puisqu'elle est quand même bien identifiée. Et en la lisant, je me dis, formidable, on trouve une deuxième lettre écrite en français par un membre de Sonderkommando. Parce que j'avoue que je connais la lettre de Chaim Hermann, mais pas par cœur. Et donc, c'est quand même troublant. Je me reporte à la diffusion de la lettre de Chaim Hermann, sa retranscription, et je me dis, mais en fait, c'est la même lettre, donc il y a un problème. Et c'est là que l'enquête commence, que je tente de retrouver Simone, qui malheureusement est décédée l'année d'avant.
Vous comprenez qu'il y a un original aussi dans cette famille Strasfogel, vous comprenez
ça? À ce moment-là, je ne sais pas qu'il y a un original. Ah. Enfin, je sais parce que j'ai une copie du manuscrit, mais je ne sais pas ce qui est devenu le document. Donc, par les Figlars d'ailleurs, je retrouve la trace des enfants de Simone. D'abord de Béatrice d'ailleurs, puis ensuite de Laurent. Et ce qui m'intéresse, c'est la première question que je leur avais posée, c'est comment avez-vous, donc vous avez la lettre, ils me disent oui, comment est-elle arrivée en France? Voilà, c'était
et
aussi.
Et vous avez tout reconstitué ainsi.
Et voilà.
Avec Laurent Montelac.
Avec Laurent, avec les archives de Caen.
Fait par Karen,
voilà. Et quand rencontre Laurent, quand j'ai la première fois Laurent au téléphone, je lui propose qu'on se rencontre. Il me dit oui, c'est moi qui ai la lettre, ok. Je lui raconte à Bobard quand même à ce moment-là, en lui disant ça serait bien qu'on se revoie pour refaire une bonne copie.
J'ai retrouvé les mails.
Oui. Je peux pas lui annoncer par téléphone que sa lettre elle est publiée dans des tas d'ouvrages et attribuée à un autre. C'est pas possible de lui dire ça comme ça par téléphone. Donc on se rencontre et c'est voilà, en discutant, je lui dis mais vous savez le texte de la lettre, il a été utilisé, il a été publié, mais voilà, c'est aussi ce travail d'accompagnement, alors de découverte de la lettre, d'accompagnement, et puis la boucle est bouclée avec vraiment l'ouverture du dossier Erstrasfogel aux archives de Caen.
Je rajoute que ma sœur qui habite à Grenoble, juste à côté de Grenoble, participe aussi beaucoup à la diffusion de cette lettre et l'explication. Oui. Elle fait aussi son travail de son côté, moi je le fais un petit peu aussi à Paris, mais elle le fait aussi sur place.
Ici. Émotion quand même de l'archiviste et de l'historien là. Vous voulez dire un tout petit mot?
Oui, très rapidement, mais totalement différent de ce qui vient d'être dit. C'est qu'il y a un autre manuscrit d'Under Commando qui a été retrouvé juste après la guerre, Marcel Nadjari. L'intérêt, c'est qu'il cite Strasfogel.
Ah, ça c'est très important.
C'est ça qui est intéressant.
Alors, l'émotion de l'archiviste, de l'historien, trouver un original, le réauthentifier. Et vous, Laurent Montelac, dites-nous en quelques mots l'émotion que vous avez eue. Je crois que vous avez lu cette lettre la première fois avec Karen Taillé.
Ah oui, oui. Ça a été un moment... terrible. Terrible parce que là, j'ai eu conscience de l'importance de cette lettre et un peu aussi du temps perdu, en fait, à ne pas l'avoir divulguée plus tôt. Je pense que la date à laquelle ma mère l'a déposée en 2002, c'est peut-être pas complètement... Alors là, c'est juste une réflexion personnelle, c'est peut-être pas neutre que ce soit en 2002 parce que c'était peu après... le décès de mon père, qui est décédé en 2000. Et compte tenu des instructions que mon grand-père indiquait dans sa lettre, qui a été lue par Liliane Revert, c'est peut-être pas neutre qu'elle ait attendu le décès de mon père pour déposer cette lettre. C'est une réflexion tout à fait personnelle. Je sais pas si elle est partagée par le reste des membres de la famille, mais c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Parce qu'elle aurait pu, l'ayant depuis le décès de ma grand-mère à la fin des années 80, elle aurait pu le déposer beaucoup plus tôt au mémorial de la Shoah. Or, ça n'a pas été fait, ça a été fait beaucoup plus tard.
Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette émission possible, à nos invités Karen Taïeb, Laurent Montelac et Tal Broutman, à toute l'équipe d'Avec Philosophie, bien sûr, à notre réalisateur Nicolas Berger, avec à la technique ce matin Marie-Claire Oumabadi. Merci au Mémorial de la Shoah et à toutes leurs équipes. Merci à notre partenaire pour cette émission, le Nouvel Obs, et en particulier à Natacha Tatu, Sylvain Courage et Mathieu Aron. Merci à Liliane Revert et à son agent, Sophie Barrois. Et puis je voudrais élargir les remerciements exceptionnellement tant nous nous sommes sentis soutenus à France Culture dans la préparation de cette émission. Merci à Émilie Dejon, Florian Delorme, Stéphane Spada, Hervé Rio, Carole Bure, Elodie Vazex, Mehdi Hariri, Thomas Hercouet, Antoine Lachant, et puis pour l'application Radio France à Erwan Gaucher et ses équipes. C'était Avec Philosophie le jeudi 3 avril 2025, une émission consacrée à la lettre de Hermann.